Les cours du Collège de France, civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin.
Eh bien, merci de votre fidélité malgré les vacances, pour certains, mais souvent c'est une partie de la salle, c'est les petits-enfants dont il faut s'occuper, mais il y a aussi les parents. Voilà, donc, avec ce cours, nous entamons l'étude de la vie judiciaire. Il nous faut d'abord voir comment elle s'organisait habituellement, à qui s'adressait un individu qui s'estimait être victime d'un délit ou d'un crime. Quelle procédure était suivie pour la résolution des conflits? Quel châtiment était susceptible de frapper les coupables? Pour l'époque paléo-babylonienne, la publication du code de Hammurabi par le père Scheil en 1902 a été une date marquante. 20 ans plus tard, Julius Lautner publiait la première synthèse qui s'appuyait sur les documents d'archives. En 1996, deux travaux importants paraissaient, la thèse de l'Américain John Faulkner, un élève de Samuel Gringus, soutenue cette année-là, est restée inédite, et au même moment paraissait le gros livre en 2 tomes que Eva Dombrady avait tiré de sa propre thèse. Cet ouvrage n'a pas inclus les données de Marie pour 2 raisons. On n'y trouve pas ce qu'on appelle en Babylonie une tablette de non-revendication, les Tupi Laragamim, et en outre, comme l'ont regretté certains recenseurs, Eva Dombrady n'a pas utilisé dans son ouvrage les données très abondantes de la correspondance. Mais il est vrai que pendant longtemps, on pouvait croire que les sources de Marie sur ce sujet étaient très limitées. Dans ARM 8, en 1958, Georges Boyer intitulait son 10e et dernier chapitre « Documents judiciaires, litiges et procédures », mais celui-ci n'occupait que moins de 4 pages et il observait, je le cite, « Les textes juridiques de Marie, qui intéressent la procédure et l'administration de la justice, sont peu nombreux et en fort mauvais état. Il n'est donc possible d'en tirer que des renseignements fragmentaires. Autant qu'on peut en juger, ces indications ne présentent pas de différence fondamentale avec ce que nous savons des institutions judiciaires et procédurales de la première dynastie de Babylone. » La situation s'est améliorée de plusieurs façons. D'abord par des raccords de fragments qui ont permis de compléter certains des documents dont Boyer déplorait le mauvais état. Surtout par la publication de nombreuses lettres qui ont apporté d'importantes informations. On en a déjà vu lors des cours précédents, on va en voir encore aujourd'hui beaucoup. Et enfin par l'élargissement à d'autres sites de la région, notamment Terka et Shubat Enlil, nous l'avons déjà vu. Comme la semaine passée, la démarche se fera en 2 temps. Nous examinerons d'abord les acteurs de la vie judiciaire avant d'analyser les différents types de verdicts qu'ils rendaient. Vers qui un individu lésé se tournait-il pour obtenir justice? On pense bien entendu au roi, mais il était difficile de se présenter à lui quand on habitait loin de la capitale. On verra que les gouverneurs jouaient de ce fait un rôle non négligeable. Et pour finir, nous terminerons par le statut des juges proprement dit, assez rarement mentionné. Étaient-ils ou non des professionnels? C'est une des questions que nous aurons à examiner. Vous vous rappelez la prophétie d'Adou d'Alep que nous avons lue lors du premier cours. Le dieu de l'orage y adressait au roi de Marie cette demande. « Lorsqu'un homme lésé ou une femme lésée t'interpelleront, tiens-toi debout et rends-leur un jugement. C'est cela que je désire de toi. » Eh bien, il nous faut voir comment cela était concrètement possible. Nous n'avons, dans la correspondance retrouvée dans le palais de Marie, guère d'allusion à la justice rendue par le roi en son palais. Il en va de même pour les entrevues accordées à des ambassadeurs étrangers, et ça s'explique très bien. Le roi n'avait pas à être informé de ce qui se passait dans son propre palais, et donc il ne peut s'agir que de rappels au souverain de cas qu'il a tranchés par le passé. Un exemple nous en est fourni par un texte sous presse dans ARM 35. Le chef yéménite Yarimlim, à ne pas confondre avec son homonyme le roi d'Alep, y écrivit à Zimrilim « Monseigneur m'a écrit au sujet d'Abi Rabi, or c'est Monseigneur qui a jugé le cas de cet homme. À présent, Monseigneur m'a écrit en ces termes, etc. » La suite est mal conservée, puisque la deuxième moitié de la tablette a disparu, mais le rappel initial est pour nous important. Il existe en acadien deux expressions différentes. La première, c'est « dinam dianum », mot à mot « juger un jugement », avec ce qu'on appelle une figure étymologique. Le verbe et son complément sont construits sur la même racine. Alors, on peut avoir l'impression que cette expression signifie qu'un verdict a été rendu. Mais nous le verrons, ça n'est pas vraiment le cas. Celui qui juge, en fait, indique la manière dont la procédure doit être conduite de façon à ce que le cas soit tranché. Il en va de même de l'expression qu'on trouve généralement au début des comptes rendus de procès, « dinam shuruzum », littéralement « faire prendre un procès, un jugement ». Il s'agit de la clôture de la première étape de la procédure. Elle permet de confirmer l'existence d'un préjudice et conduit ensuite à l'examen des preuves et ou à la prestation d'un serment. Il arrivait que le roi rende la justice lors de ses déplacements. C'est ce que montre ARM 885, un texte que j'ai réédité avec un fragment supplémentaire en 1997. Il s'agit d'une affaire que le roi eut à trancher lorsqu'il se trouvait dans la région du Souroum, plus précisément dans l'île de Hanat, à environ 200 km en aval de Mari. Le texte commence par énumérer cinq noms propres et ajoute « du clan de Birilanou », on a ensuite 37 noms propres, « Poulsiadou du clan Yaboussoum », deux noms propres, et le texte proprement dit commence « Poulsiadou du clan Yaboussoum et ses frères ont revendiqué un champ du palais en ces termes, c'est notre champ ». La ville de Sapiratoum s'étant réunie, Zimrilim a rendu un verdict dans le temple de la ville de Hanat. Il a livré la ville de Sapiratoum au serment du dieu. Alors nous verrons la suite de ce texte dans trois semaines. Nous avons déjà parlé de Sapiratoum, localisée dans l'île de Bidjan, à 25 km en aval de Hanat. On ne connaît pas la date exacte de ce texte. Et on pourrait s'étonner de voir ici le roi à la fois juge et parti, puisque les membres du clan Yaboussoum, qui résident dans l'île de Sapiratoum, revendiquent un champ détenu par le palais. Et plus loin dans le texte, on nous dit le champ du roi. Ce qui pour moi est intéressant, c'est qu'on retrouve l'expression « dinam dianum ». Or, Zimrilim ne tranche pas véritablement l'affaire, mais il soumet la ville à un serment. Et la décision de Zimrilim a lieu dans le temple de Hanat. On retrouve à cet égard un cas analogue dans une lettre encore inédite, je cite « J'ai dit à Monseigneur dans le camp, pourquoi Monseigneur n'a-t-il pas envoyé Banoum pour un jugement en bonne et due forme ?»« Qu'on me procure un jugement, et on retrouve l'expression « dinam shuruzum » dans le temple d'Itourmer. » C'est à moi que mon père a laissé ses biens. Donc une dispute à propos d'un héritage. Mais ce qui est intéressant, si l'on comprend bien cette brève missive, c'est que les gens qui vont ouvrir le procès le feront dans le temple d'Itourmer, qui était, je vous le rappelle, la divinité de la ville de Mari. Un autre texte encore inédit montre également Zimrilim rendant la justice en dehors de sa capitale. Cette fois, il se trouvait à Sagaratoum. « Dis à mon seigneur, ainsi parle Ikshud Apashu, ton serviteur. Yashum Dagan, homme de Zinian Yahapalum, est allé trouver mon seigneur à Sagaratoum et mon seigneur leur a rendu le jugement suivant. » Leur, ça veut dire à Yashub Dagan et à la personne qui l'a mise en cause. Donc, le jugement de Zimrilim, maire Sugagoum et anciens de la ville qui sont au courant, doivent se tenir devant les dieux et prêter serment. Si les gens n'ont pas fait le partage, l'aîné doit prendre deux parts et les cadets ou le cadet une part. Voilà le jugement que leur a rendu Monseigneur. Et après ce rappel, Ikshuda Pashu apprend au roi ce qui a suivi sa décision. Nous verrons le reste de cette lettre, très intéressant, lorsque nous étudierons les serments. Pour l'instant, je me contenterai d'observer que depuis Zinian, Yashub Dagan est remonté jusqu'à Sagaratum parce qu'il savait manifestement que le roi s'y trouvait. Comme je viens de l'indiquer, ce que l'auteur de la lettre décrit comme un dinoum n'est pas vraiment ce que nous appelons un verdict. Le roi indique la procédure à suivre, c'est-à-dire la prestation d'un serment, et il rappelle un principe. En l'espèce, le roi se contente d'énoncer explicitement la coutume qui réglait d'ordinaire le partage des héritages et que nous avons déjà vu il y a 2 semaines à propos de l'adoption, l'aîné bénéficiait d'une part double. De manière paradoxale, les archives de Tel Leilan nous offrent plus souvent l'occasion de voir les rois du pays d'Apoum rendre la justice que ne le font celles de Tel Hariri pour les rois de Mari. Plusieurs lettres nous montrent en effet des rois étrangers envoyer des justiciables au roi local qui devra trancher l'affaire. C'est ainsi que le roi de Karat, Yamtsi Hadnu, écrivit au roi du pays d'Apoum, Tilabnu, de cette manière. « Voici que je viens de t'envoyer mon serviteur Yaparlim. Il conduit avec lui des hommes en procès. Qu'ils se tiennent, pendant une certaine durée, en ta présence. Et dans les jugements, quand ils arriveront à toi, donne-leur pleine satisfaction. Qu'en cette occasion, je puisse voir que tu parles droitement avec moi. » La fin de la lettre fait allusion au serment d'alliance qui unit les deux rois, comme nous l'avons vu lors du premier cours. Chacun, vous vous rappelez, s'engageait à rendre la justice aux ressortissants de l'autre comme s'il s'agissait de ses propres ressortissants. On voit ici que c'est le roi d'Apoum en personne qui devait rendre un jugement dans des affaires impliquant des ressortissants de Karat. Une autre lettre adressée au même Tilabnu fut écrite par un certain Nikmiadou, qui était peut-être le roi d'une ville secondaire au centre du triangle du Rabour. Je le cite. « À propos du cas du marchand Assiroum, j'ai précédemment fait se tenir en ma présence ses témoins, des marchands et de simples sujets, Mouchkenoum, et je leur ai procuré un procès conformément aux déclarations de ces témoins. À présent, si tu veux annuler mon jugement, annule-le. À présent, voici que je viens de t'envoyer ces témoins et les marchands. » Ensuite, on a un passage naculaire et la lettre s'achève ainsi. « Fais se tenir ces témoins et que Assiroum reçoive ton verdict en ta présence conformément aux déclarations de ces témoins. » Le terme que je traduis par « témoin » correspond au sumérogramme « shugi » qui peut aussi décrire les anciens d'une ville. Jesper Heidem, dans son édition du texte, avait retenu le sens d'anciens, « elders », mais il me paraît aujourd'hui qu'une traduction par « témoin » est beaucoup plus plausible dans ce contexte. Mais le plus intéressant est ailleurs. L'affaire concernant un marchand nommé Assiroum, dont la lettre ne donne pas le détail, avait été jugée par Nikmiadou, mais apparemment le verdict a été contesté par le plaignant. Et du coup, Nikmiadou envoie l'intéressé à Tilabnu et il indique que celui-ci peut annuler son jugement. L'emploi du verbe poussoussoum, qui signifie effacer, annuler, n'est pas anodin, bien qu'il n'ait pas été commenté par Jesper Heidem, ni à ma connaissance par personne d'autre depuis la publication du texte en 2011. C'est en effet le mot qu'on trouve dans l'épilogue du Code de Hammurabi. Il y est question de quelqu'un, je cite, qui annulerait le jugement que j'ai rendu. Et dans le contexte de l'épilogue du Code d'Hammurabi, c'est quelque chose de négatif. Mais on voit bien que ici, ça ne l'est pas. Le mécanisme qui est décrit dans cette lettre est bien différent d'un appel au sens courant du terme, puisque ça n'est pas le justiciable qui fait appel, c'est en quelque sorte le juge de première instance qui transmet le dossier à un roi dont il reconnaît la supériorité et à qui il laisse les mains libres pour formuler un nouveau verdict. Il semble que dans certains cas, des individus aient joué entre plusieurs juridictions pour obtenir un jugement qui leur soit plus favorable. Certains ont joué ce jeu en raison de la pluralité de centres de pouvoir au sein du royaume de Haute-Mésopotamie, avec notamment Yasmaradou, le roi de Marie, et son père, le grand roi Samsiadou. C'est ce que semble indiquer cette lettre de Hammanum adressée à Yasmaradou. Autre chose, des gens de Khurban sont venus ici. Ils m'ont, une petite lacune, par devant les nombreuses divinités, j'ai offert un bélier à moi et j'ai érigé un monument commémoratif. Ayant connaissance du jugement de mon seigneur, ils, c'est-à-dire les gens de Khurban, viennent de partir chez le grand roi et ils ont calomnié Laoum. Maintenant, si mon seigneur le veut bien, qu'il envoie des ordres express pour que l'on ne méprise pas mon monument commémoratif que je leur ai érigé et que les gens de Khurban n'aillent pas à leur perte. Donc une lettre très elliptique, mais on a bien l'impression que les gens de Khurban, insatisfaits d'un jugement rendu par Yasmaradou, sont allés trouver Samsiadou, et on peut penser que le jugement d'Yasmaradou, qui est en l'occurrence contesté, reposait sur le témoignage de Laoum qu'il s'agissait de discréditer. Un autre exemple concerne cette fois Ishmedagan, le frère de Yasmaradou, qui était roi à Ekallatoum. Une lettre du général Karradoum à Yasmaradou mérite d'être citée en entier. Au sujet de Yahouiadou, à propos duquel mon seigneur m'a écrit, il s'est enfui. Cet homme ne mérite pas de vivre. Assurément, le roi le sait, ton père. Ishmedagan, ton frère, le sait. Isharlim et Moutbissir, tes serviteurs, le savent. Lors de la victoire, sur l'Arim Nouma que le roi a remporté, j'avais donné des instructions strictes à chacun, au chef de section et au lieutenant. Je rappelle qu'il a mangé le serment par Adou et Samsiadou, celui qui s'appropriera du butin. Or lui, il s'est approprié sur le butin deux marmites en cuivre, de l'or, de l'argent, du lin, de l'alun noir, et puis ensuite on a un passage un peu cassé. Le texte reprend. Or une fois que nous l'avons jugé, il est allé trouver Ishmedagan et lui a tenu ce discours. Karadoum et les Sougagoum m'ont jugé et m'ont condamné. Ishmedagan lui a fait cette réponse. Puisque Karadoum et les Sougagoum ont jugé ton cas, moi, que dirais-je donc ? D'autre part, lorsque le roi est venu à Shouna, il est allé le trouver, mais il a répondu de même. Et c'est du moment qu'il est allé trouver le roi et Ishmedagan, et qu'ils lui ont répondu de même, qu'il est allé trouver mon seigneur, et que cet individu lui a dit « Karadoum ne s'en est-il pas aussi approprié ?» Étant donné qu'il avait mangé le serment par Adou et Samsiadou, ainsi que par Yasmaradou, monseigneur, il faut faire peser par cet homme un tiers de cycle d'argent ou 15 grains d'or. Alors, première remarque, on voit qu'il n'existe pas de séparation entre justice civile et justice militaire. Ayant contrevenu à l'ordre express du général Kouroudoum, Yahouiadou est condamné par une sorte de tribunal formé par le haut gradé et les Sougagoum. Il tente de faire appel à Ishmedagan et à Samsiadou, mais ceux-ci refusent de donner un nouveau jugement. Yahouiadou tente sa chance une troisième fois auprès d'Yasmaradou, mais cette fois en accusant le général de s'être lui aussi approprié du butin, malgré l'interdiction qu'il avait émise. Et comme toujours, nous ne savons pas ce qui s'est passé ensuite. Les rois n'étaient cependant pas les seuls à régler les litiges. Un certain nombre de textes montrent que c'était également une prérogative des gouverneurs. Il y a eu pendant longtemps une très fâcheuse confusion en ce qui concerne les personnes qui portent le titre de chapitoum. En effet, Jean Bottero, dans ARM7, avait proposé que Chapitum puisse être à Marie la lecture du sumérogramme dit Q5, dont l'équivalent habituel est Dayanum juge. Le terme de chapitum, absent du lexique acadien jusqu'à la publication des textes de Marie, correspond à la même racine sémitique que le terme traduit par juge dans la Bible. Toutefois, le livre des juges montre que ces personnages s'occupaient de toute autre chose que de rendre la justice. Et de la même manière, à Carthage, les suffètes, c'est le même mot, n'étaient pas des juges, mais les premiers magistrats de l'État. Et le dossier Mariotte est désormais suffisamment complet pour montrer que Chapitum désigne en réalité les gouverneurs de province. Mais cela n'empêchait pas qu'ils aient pu, à l'occasion, rendre la justice. Tel est le cas d'un des rares procès-verbaux qui nous soit parvenu. Sa publication par Georges Boyer en 1958 a contribué à entretenir la confusion qui a été heureusement dissipé depuis. Je cite ce texte. « Sumuhadu, le gouverneur Chapitum, a procuré un procès à Dada, fils de Nir, et à Naramtum, la fille de Rahmaya. Ils se sont mis d'accord. Dada et Naramtum ont partagé sur la totalité de ce qui existe dans leur maison. Ils sont satisfaits. Ils ont juré que l'un ne réclamera pas contre l'autre. Celui qui contestera devra payer une mine d'argent du fait qu'ils ont juré par l'Assakum de Yardunlim et Zimrilim. » On voit que le gouverneur ouvre le procès, ce dont il rend compte par la formule d'Innam Shuruzum que nous avons déjà commenté, mais ici, point de vainqueur ou de vaincu, les parties se mettent d'accord. Et c'est cette conciliation que le document enregistre. Le texte ne précise pas à quel titre intervient ce partage entre Dada et Naramtum. Nous avons étudié ce texte lors du séminaire de jeudi dernier et Jules Jallet-Martini m'a fait ensuite une suggestion intéressante. L'homme et la femme ont deux pères différents, mais ils pourraient avoir la même mère. Et ce serait après la mort de celle-ci qu'un conflit aurait surgi à propos du partage des biens qui appartenaient à cette femme et qui se trouvaient dans la maison familiale. Et finalement, un accord serait intervenu entre demi-frères et demi-sœurs avalisés par le gouverneur local. Une autre lettre du même Sumuhadu se révèle cruciale pour comprendre le fonctionnement de la justice dans le royaume de Marie. Elle commence ainsi. Le jugement concernant Arilim et Damiltani, moi-même, Sametar, Halihadun, Agbaharum, Atamrel, Iskatan, Yahuiel et Yasuerar, serviteurs de confiance de mon Seigneur, nous nous sommes empressés et je leur ai fait prendre la sentence qui les concerne ainsi. La suite du texte décrit la procédure de serment imposée à la famille d'Arilim et la lettre s'achève de cette manière. Monseigneur doit trancher l'affaire de ce jugement. Je jure que nous n'avons pas adopté une procédure inique à cette occasion. Monseigneur doit trancher mon affaire. Ou sinon, quel poids peut avoir le propos de Monseigneur disant « Celui qui a prêté serment par Zimrilim peut commencer une procédure sur tout sujet. Depuis ma jeunesse, je suis un serviteur au service de Monseigneur. » On voit donc Sumuhadu, entouré par sept autres hautes dignitaires du royaume, décider de la procédure dans le conflit entre Arilim et une femme nommée Iltani. Manifestement, la procédure qui a été décidée a été contestée, et Sumuhadu demande donc au roi de confirmer la décision qu'il a prise, et il souligne à la fois son attachement personnel au roi et le fait que cette décision fut collégiale. Et la fin de la lettre a ceci d'intéressant, qu'elle semble indiquer que la capacité de rendre la justice se faisait par délégation du roi auquel un serment de fidélité avait été prêté. Une lettre dont l'adresse a disparu montre bien le lien entre la responsabilité d'un district et le droit de juger. Je la cite. « Au moment d'atteindre Kutlatum, j'avais dit à Idin Dagan, « Tu donneras une mine d'argent et la taxe Igisum. » Je l'avais dit à Monseigneur, et Monseigneur m'avait répondu ceci, « Où le prendra-t-il » J'avais dit, « Je le donnerai. » Monseigneur m'a alors dit ceci, « Place un homme à Duryardunlim, et tu donneras toi-même cet argent et la taxe Igisum. » J'avais alors répondu « Oui » à Monseigneur. Une deuxième fois, dans la cour du palmier, j'ai dit ceci à Monseigneur. « Ahamnuta est déjà installé à Duryardunlim. Il donnera cet argent et la taxe Igisum. » Mais Monseigneur m'avait répondu « Oui ». Tebi Guérichou était alors au service de Monseigneur. Monseigneur l'a appelé et lui a donné pour instruction « Appelle Ahamnuta et donne-lui mission en ces termes. Tu es nommé à Duryardunlim, tu donneras une mine d'argent et la taxe Igisum. » Selon les instructions de Monseigneur, je suis arrivé à Duryardunlim, j'ai convoqué les bourgeois et j'ai donné mission à Ahamnuta. Maintenant, poursuit la lettre, Idin Dagan est arrivé à Duryardunlim et il trouble la ville en disant « Ça n'est pas du tout Ahamnuta qui est nommé, c'est moi !» Sumrurabi n'a plus autorité sur Duryardunlim ni sur le jugement. L'auteur de la lettre reprend « Je suis en plein désarroi. Ainsi, je ne peux établir la redevance du palais dont je m'occupe. Aujourd'hui, Sumuradu est arrivé et a dit ceci « Je chasse Ahamnuta du poste de Sugagum et j'y place Idin Dagan. » Cela fait 10 jours qu'Ahamnuta est nommé et aujourd'hui, on l'en chasserait. À présent, Idin Dagan n'est pas complètement à la hauteur des affaires de la ville. Déjà auparavant, puis il y a une lacune, et la lettre s'achève ainsi. Il faut qu'Ahamnuta soit installé comme Sugagum de la ville. Alors, Monseigneur doit arbitrer l'administration du district de Duryardunlim. Donc, le nom de l'expéditeur de la lettre est cassé, mais une fois qu'on a lu l'ensemble de la missive, on comprend qu'il s'agit de Sumrurabi. Celui-ci était le gouverneur du district de Duryardunlim, qui était une province autonome au début du règne de Zimrilim. L'affaire concerne la nomination d'un personnage de rang inférieur, celui qui devrait être le maire de la ville, avec le titre de Sugagum. Dans un premier temps, Sumrurabi avait choisi un certain Idin Dagan et s'était porté caution pour la contribution en argent et en bétail que, comme tous les Sugagum, Idin Dagan aurait à verser chaque année. Et puis Sumrurabi, arrivé dans le palais de Marie, s'est ravisé et son choix s'est porté sur Ahamnuta, qui avait le double avantage d'être sur place et d'être capable de verser lui-même la redevance annuelle. Et c'est donc Ahamnuta qui a été nommé. Mais ensuite, Idin Dagan est arrivé à Duryardunlim et a prétendu qu'il était le seul détenteur légitime de l'autorité, et il a ajouté que le gouverneur avait été démis de ses fonctions d'une manière très limpide pour nous. Je recite le passage, « Sumrurabi n'a plus autorité sur Duryardunlim ni sur le jugement, et cela confirme bien le rôle du chapitum, du gouverneur, en matière judiciaire. » Bien souvent, des plaignants allaient trouver le roi et celui-ci les adressait ensuite au gouverneur de leur province. C'est ce que montre le document suivant, une des rares lettres qui est pour auteur Zimrilim lui-même. Elle fut adressée à Yakimadou, le gouverneur de Sagaratum. Le roi y déclare « Yantin Dagan de Yaïl s'est présenté à moi en disant « Je détiens 10 arpents de champ, un héritage que mon père avait acheté, et moi j'accomplis un service de réserviste. Sur ce champ de mon héritage, Yassi Dagan m'a retranché 3 arpents de terre et auparavant j'avais été muté à Duryardunlim. Voilà comment cet homme s'est présenté à moi. Maintenant, voici que j'ai envoyé cet homme à toi. Rends justice à cet homme. Rends-lui son champ que Yassi Dagan lui avait retranché. Les 10 arpents de champ, son héritage tout entier, à lui-même, donne-lui, et que personne ne fasse de réclamation à cause de son champ. En outre, cet homme, assigne-le au garde personnel, il devra faire le service parmi la garde personnelle. Une lettre de ce genre aurait tout à fait conforté Georges Boyer dans son jugement que j'ai cité tout à l'heure à propos de la ressemblance des textes de Marie avec ceux de la Babylonie. Cette lettre ressemble en effet énormément à celle que Sinidinam, le gouverneur de Larsa, reçut quelques années plus tard de Hammurabi de Babylone. Et vous noterez par ailleurs qu'on retrouve ici une distinction sur laquelle j'ai déjà attiré votre attention, la différence entre les terres en pleine propriété que l'on peut vendre et transmettre en héritage et celles qui appartiennent au palais dont on peut avoir la jouissance en échange d'un service rendu au roi mais qu'on ne peut pas vendre. Et donc Yassi Dagan avait lésé Yantin Dagan puisqu'il a disposé d'un tiers de la surface du champ qui appartenait en propre à ce dernier. En sens inverse, il arrivait fréquemment que des gouverneurs envoient au roi des individus dans le cadre d'une enquête judiciaire. Par exemple, à l'époque de Yasmaradou, on voit ce texte, « Dit à Monseigneur Yasmaradou, ainsi parle Waternanum, à présent, je viens d'envoyer le jeune homme, juge son jugement. » On relève que l'auteur de la lettre se permet d'écrire au roi de Marie à la deuxième personne, et la suite donne les termes du serment à prononcer, nous y reviendrons bientôt. Un autre exemple est donné par cette lettre de Yakimadou à Zimrilim. Yansib Dagan, qui fait partie des commandos d'intervention, se trouve dans mon district. Il est allé au pays d'Idamaratz, y a volé 8 esclaves et 2 ânes, puis les a vendus. J'ai appris l'affaire par ouï-dire. On a convoqué Yansib Dagan et je l'ai réprimandé, lui disant « Pourquoi as-tu volé esclaves et ânes dans le pays d'Idamaratz, gens avec qui mon seigneur a un pacte de non-agression ?» Il m'a répondu « Je n'ai pas commis de vol. » Il y a des gens qui vendent esclaves et ânes. Zouratnim, serviteur de Monseigneur, lui a vivement répondu « Tu as vendu 4 esclaves à Napsia de Harouatoum, tu as vendu 2 ânes à moi-même et 4 esclaves, une fois à Outaroum, dans le district de Sagaratoum. » Yansib Dagan a dit « Fais-moi mener au roi, afin qu'en sa présence, j'établisse qui a volé les esclaves et les ânes. » Ça rappelle la chanson, hein, « Qui a volé ?» Voilà donc que je fais mener Yansib Dagan chez Monseigneur, afin que Monseigneur le réprimande, et qu'il, c'est-à-dire Yansib Dagan, dénonce les gens qui ont volé esclaves et ânes au pays d'Idamaratz et en ont fait commerce. En effet, pour donner toute son efficacité à l'édit de Monseigneur, je me suis dit, il est à craindre qu'il ne fasse appel à des bédouins, qu'il n'oublie l'obéissance due à Monseigneur, et que, si nous ne lui avons pas amené cet homme, il ne quitte tout soudain Sagaratoum. C'est dans cette crainte que je l'ai envoyé à Monseigneur, de sorte que Monseigneur puisse le réprimander. Alors vous voyez que, il n'est pas ici question de procès, ni de jugement. Yansib Dagan, mis en cause par Yakimadou, a nié être l'auteur du vol. Pour nous, il serait coupable de recel, mais Yakimadou demande simplement qu'il soit réprimandé. Ce que souhaite surtout le gouverneur de Sagaratoum, c'est que Yansib Dagan livre les noms des auteurs du vol. Mais celui-ci déclare qu'il ne le fera qu'en présence du roi, et ce seront donc éventuellement ces voleurs, ainsi dénoncés, qui seront par la suite jugés. D'une façon générale, le statut des juges à l'époque paléo-babylonienne n'a guère été étudié jusqu'à présent. Une thèse est actuellement en préparation sur ce sujet par Farah Thomas, sous la direction de Sophie Desmarlafon. Ceux d'entre vous qui ont suivi mon cours en 2020 se rappellent peut-être l'étude de Michel Tanret sur le juge Gimil Marduk qui posait la question de l'existence de juges de carrière. Mais cela concerne Sippar à l'époque paléo-babylonienne tardive, donc une autre région à une époque postérieure. Nous allons essayer de voir ce qu'il en était dans la haute Mésopotamie du XVIIIe siècle. La notion de juge du roi est d'abord apparue dans des documents des royaumes de Larsa et de Babylone. Il n'en existe pas dans les archives de Marie, ou du moins pas encore, mais cette lacune est comblée par une tablette découverte à Terka. Le texte débute en effet ainsi Yaripoum, fils d'Idin Itourmer, a porté plainte au sujet d'une maison et d'un champ. Kibridagan et un juge du roi, Dayan Sharrim, ont rendu un verdict. Et on retrouve l'expression Dinam, Dianum que nous avons déjà vue. La suite est moins facile à lire et interpréter, mais a lieu devant la déesse Lagamal et le dieu Ikshudum. Ce couple divin constitue à mes yeux les divinités protectrices de la ville de Terka, à côté de Dagan, qui est le dieu régional. Il n'y a donc aucun doute que Kibridagan, qui est mentionné ici sans son titre, est bien le gouverneur Chapitoum de Terka, bien connu grâce aux dizaines de lettres qu'il envoya à Zimrilim et qui furent parmi les premières à être publiées par Jean-Robert Cuper en 1950. L'existence de juge du roi n'est pas attestée ailleurs dans le royaume de Marie, donc on ne sait pas s'il s'agit de juges de la capitale envoyés au cas par cas, mais le fait même qu'on puisse voir côte à côte un gouverneur Chapitoum et un juge Dayanoum montre bien que le Chapitoum n'était pas essentiellement un juge. Et j'observe qu'une constellation du même type est également attesté dans un texte de Raradoum légèrement postérieur, puisqu'il date de l'an 6 de Samsui Luna. Pouzratanu a intenté un procès à Shapi-Ilim. Napsunaaddu, le gouverneur Chapitoum, le juge du roi et les anciens de la ville, et l'enveloppe d'homme variante les anciens de Yablia, lui ont procuré un jugement, et on retrouve à nouveau l'expression d'Inam Shuruzum. La présence dans ce texte du titre de Chapitoum montre que la domination babylonienne consécutive à la conquête de la région du Suhum par Hammurabi n'entraîna pas une babylonisation complète, puisqu'on conservait encore, en l'an 6 de Samsu-Iluna, la manière de désigner un gouverneur qui était celle d'Eshuna et de Marie, alors que les gouverneurs étaient à Babylone pourvus du titre de Shapiroum. Par ailleurs, on voit que le juge du roi dans ce texte, rédigé à Yablia, n'est pas nommé de la même manière qu'il ne l'était pas dans le texte de Terka, ce qui fait penser qu'on a affaire à des gens qui viennent d'ailleurs et qui n'étaient pas forcément bien connus par le scribe rédacteur des documents. La distinction entre gouverneur et juge s'observe également dans une lettre de Rassidanoum à Yasmaradou. Je cite, « Atamroum, le balayeur, m'a-t-il apporté ma part? Est-il jamais venu au procès? Je l'ai jugé à deux reprises, et en outre, les juges l'ont jugé de même. Il tient mon jugement et celui des juges pour nul et non avenu. » Ce texte est assez énigmatique, il faut l'avouer, mais on voit qu'il y a un jugement, et même deux, par Rassidanoum, et en plus un jugement par les juges, du moins voyons-nous ici clairement que les juges n'avaient pas l'exclusivité dans la tenue d'un procès. Il y a manifestement des cas où celui qui juge n'est ni un gouverneur ni un juge Dayanoum. C'est ainsi que Nanagalzu eut à juger les musiciens du service de Rishiya pour ne pas avoir respecté la préséance due à un supérieur. Avant le départ de Monseigneur, Nanagalzu est venu ici en disant « Le roi m'a envoyé au sujet de Gumuldagan en ces termes « J'ai envoyé Gumuldagan pour qu'il soit au devant des gens. Pourquoi ont-ils accepté avant lui la coupe ? Que les musiciens se rassemblent et jugent-les pour avoir accepté la coupe avant Gumuldagan. » Pourquoi ne l'aurait-il pas accepté avant même que Monseigneur n'ait le temps de dire « Tiens la coupe ?» Nanagalzu est venu me trouver en disant « Le roi m'a envoyé ce message, juge les musiciens. » Qu'on examine donc l'affaire. Alors, comme Rishiya, auteur de la lettre, on pourrait trouver cette histoire d'étiquette un peu ridicule, mais ce qui est intéressant, c'est que le vocabulaire ici employé est le même que pour des délits avérés, on retrouve l'expression « dinam dianum ». À Alors que les textes de Mésopotamie centrale et méridionale ne montrent pas clairement l'existence de juges professionnels, une lettre de Rabdouma Dagan à Zimrilim atteste l'existence d'un corps des juges. Et cette lettre récemment publiée nous oblige à remettre en question un certain nombre de choses. Askour El, le responsable du corps des juges, Mazastim Shah Dayani, est mort l'an dernier. Oryansip Dagan, le responsable du corps que nous avions nommé, vient lui-même de mourir. Et à présent, s'il plaît à Monseigneur, l'argent des juges ne doit pas faire défaut. Ensuite, on a une énumération de 7 personnages. Monseigneur doit envoyer un message afin qu'on m'amène ces 7 personnes et Monseigneur doit donner des directives afin qu'ainsi l'argent des juges ne fasse pas défaut. L'énumération des maires de ces 7 localités semble montrer que les municipalités jouaient un rôle dans les procès, comme le texte de Yablia nous l'a montré il y a un instant. Et nous allons voir que cet argent des juges pourrait être formé par les amendes qui étaient infligées et qui alimentaient le trésor royal. Il est souvent difficile de savoir où se situe exactement la corruption. Un premier texte nous montre le côté quasi officiel de certains versements qui rappellent un peu les épices de l'Ancien Régime en France. Il s'agit d'une lettre de Samsi Hadou à Yasmah Hadou qui a été partiellement citée par Georges Dossin, mais qui est encore inédite. Un texte un peu long, mais qui est assez savoureux. Picamael, homme d'Apan, m'a dit ceci. Auparavant, du temps de Soumoumou, c'est Soumou Yamam, le prédécesseur de Yasmah Hadou sur le trône de Marie, j'ai eu un procès. Afin de supplanter mon adversaire, j'ai donné à l'Adinoum une demi-mine d'argent à donner au palais, et je lui ai donné un demi-cycle d'or comme Bakshish Neberhum. Par la suite, par devant Soumoumou, mon adversaire m'a supplanté. Or, il, c'est-à-dire l'Adinoum, m'a pris argent et or, mais il n'a rien donné au palais. J'ai dit, rends-moi argent et or, mais il ne m'a rien donné. Tel fut le premier procès. Hier à Shubat Enlil, je les ai jugés en ces termes. Que l'Adinoum prête serment dans le temple de Roussoudanou et que, du fait que Picamael a lancé contre l'Adinoum une accusation infondée, il verse une demi-mine d'argent à l'Adinoum. À présent, Picamael est venu ici et il m'a dit, il, encore une fois l'Adinoum, a pris une mine et demie d'argent, un âne et 6 ougars de grain. En écoutant ma présente tablette, que l'on convoque devant toi l'Adinoum et tranche son affaire. Si son affaire est vérifiée, que l'Adinoum rende à Picamael une demi-mine d'argent et un cycle d'or et que lui-même, l'Adinoum, a pris du temps de Soumoumou. Sur la mine et demie d'argent, l'âne et les 6 ougars de grain qu'il a pris par la suite, que l'Adinoum donne à Picamael l'argent plus ou moins équivalent. Je viens de te l'envoyer, tranche son affaire et donne-lui satisfaction de sorte qu'il ne soit pas lésé. Vous voyez qu'il y a 3 procès successifs. Le premier a été jugé du temps de Soumou Yamam par le roi en personne, et malgré le changement dynastique intervenu, Samsi Hadou ne remet pas en cause la chose jugée. Au contraire, lors du deuxième procès, il condamne Picamael à verser à l'Adinoum une demi-mine d'argent pour avoir lancé une accusation infondée. Mais Picamael jette le doute sur la probité de l'Adinoum, l'accusant en plus d'un vol. Et l'Adinoum se trouvant manifestement dans le royaume de Marie, c'est à Yasmah Hadou qu'il reviendra de trancher l'affaire. Donc un troisième procès devra avoir lieu si l'enquête se révèle concluante concernant l'argent et l'or que l'Adinoum a pris indûment. Et vous remarquerez que Picamael n'est finalement pas mis en cause. Il n'est pas accusé de tentative de corruption, comme il devrait l'être selon le droit actuel. C'est au contraire l'Adinoum qui est accusé de malhonnêteté, puisqu'il a gardé, outre sa commission, les 30 cycles d'argent qui auraient dû être versés au palais. Et la question non résolue à nos yeux est de savoir à qui cet argent aurait dû être versé et en quoi son versement aurait conditionné le verdict. Un autre texte, encore inédit, est tout à fait intéressant. Le nom de l'expéditeur de la lettre a disparu, mais le texte, dont le début est assez endommagé, peut être ainsi compris. Monseigneur sait bien que cette affaire est scandaleuse. Du temps des rois précédents qui ont habité Marie, ou depuis que Shamash a fait s'installer Monseigneur sur le trône de Marie et a installé son qui, lorsqu'une épouse devait établir par serment son témoignage, a-t-il reçu main cadeau en place de ce serment? Or, cet individu a reçu main cadeau. Quoi qu'il ait jugé, l'épouse de l'homme devra déposer sous serment, puis Manum Balum Sha devra se toucher la gorge, jurer devant le Dieu, et alors il pourra prendre son argent. Il est très vraisemblable que c'est à l'insu de Monseigneur qu'ils ont jugé un tel jugement. Que Monseigneur entende leur affaire, et qu'à propos des nombreux cadeaux qu'il a aujourd'hui reçus d'eux, Ibal Piel fasse une déclaration au sujet de son argent dans le temple d'Itourmer, et par devant Itourmer, il pourra prendre son argent. Donc, l'auteur de la lettre commence par une déclaration indignée, faisant allusion au roi du passé, mais aussi à l'installation du roi sur le trône, et c'est la première fois que le dieu Shamash apparaît dans un tel contexte, sans doute parce que l'affaire qui suit est une affaire judiciaire. Et puis ensuite, on rentre dans le vif du sujet. Il faut bien avouer que l'affaire n'est pas très claire, mais une chose apparaît certaine, Ibal Piel était à la tête d'un groupe de personnes qui avaient rendu un jugement à la suite duquel une femme devait faire un témoignage sous serment. Il semblerait que le couple, pour éviter d'être soumis à l'épreuve du serment, ait choisi de faire des cadeaux à Ibal Piel, mais ce cas de corruption fut dénoncé à Zimrilim. Comme trop souvent, nous ne savons pas quelle fut la conclusion de cette affaire. Je reviendrai sur la question du serment dans un autre cours. Vous voyez que le découpage de mon cours à propos de la procédure n'a pas été facile à établir, et de ce fait, je suis obligé d'avoir deux cours entiers consacrés à la procédure, que je repousse donc dans deux ou trois semaines, avec un cours dévolu à la preuve écrite et un autre à la preuve testimoniale. Et donc nous allons aujourd'hui passer directement à la question des verdicts. De nombreuses lettres nous informent en effet avant tout sur l'issue des procès. On verra que se pose d'abord la question d'un éventuel pardon. Nous constaterons ensuite qu'il existait une différence entre compensation financière et amende, et nous examinerons pour finir la question des crimes capitaux sur lesquels on reviendra la semaine prochaine. Dans la terminologie actuelle, un procès peut se terminer par un non-lieu, ou bien l'accusé peut être déclaré non coupable au bénéfice du doute, ce qui n'est pas la même chose comme vous l'avez entendu ou lu en abondance ces derniers temps. Aucun équivalent de ces deux formules n'existe dans la langue acadienne. On voit seulement évoquer la notion de pardon à côté de celle de châtiment. Une lettre de Laoum est ainsi formulée. Alors, vous me pardonnez, au sujet de l'affaire du serviteur de Monseigneur, à propos de qui lui-même m'a dit « Où sont les biens de l'homme d'Idilsin ?» À l'heure actuelle, il est parti. Cette affaire n'est pas de celle qu'on peut porter devant les juges, ni pardonner. Ces témoins à charge, à la porte d'Itourmer, verseront de la poussière sur sa tête et à l'endroit où cette parole a été exprimée par lui, ils frapperont sa bouche avec un clou. Je traduis le terme de Moukinou par témoin à charge, puisque le terme habituel pour témoin c'est Shibutum. Il s'agit ici des gens qui ont établi la véracité de l'accusation et leur déclaration suffit à faire condamner l'accusé. La peine, qui consiste à enfoncer un piquet dans la bouche de quelqu'un, correspond à ce que les juristes appellent une peine réfléchissante, selon l'heureuse expression de Guillaume Cardassia. On est puni par où on a péché. Mais c'est un gros piquet en cuivre, hein, donc ça revient à tuer la personne d'une façon pas très agréable. Donc l'inculpé a dû proférer une énormité pour laquelle seule la peine de mort était envisageable. On mettait parfois le roi en garde contre une clémence excessive qui serait dictée par des arrière-pensées politiques. Cette lettre, dont le début est cassé, en témoigne. L'an passé, Monseigneur avait prononcé le jugement des Yaminites, et alors Monseigneur leur avait pardonné. Aujourd'hui, en ce qui concerne les gens de Michelin, c'est comme le louveteau. On l'a élevé et on lui a laissé libre accès aux moutons. À l'heure actuelle, les Mariottes sont en colère, disant « Renard, nous t'avons élevé, or tu mets à mal le pays. Monseigneur doit réfléchir et alors ne pas être bienveillant envers les gens de Michelin, qui sont des Yaminites. Il doit leur demander des comptes. Ils ne méritent pas de vivre. Il ne faudrait pas que Monseigneur tienne ce discours-ci, disant « Je leur ferai peur et ils se calmeront », quelque chose comme cela. Alors, ce texte est très intéressant par la sorte de proverbe ou de fable qu'on y trouve, même si, depuis, La Fontaine nous a mieux appris à distinguer le loup et le renard. Lorsqu'à la fin d'un procès, le coupable était condamné à verser de l'argent, il faut faire soigneusement attention à la personne ou à l'institution destinataire de cette somme. S'il s'agit de l'autre partie, on parlera de compensation ou d'indemnisation. Mais s'il s'agit du palais, on a affaire à une amende. On est dans le premier cas de figure avec cette lettre d'Atracatum, sœur de Zimrilim, épouse du roi de Michelin, Soubudabi. Elle écrit au roi de Marie au sujet de l'argent que m'avait réclamé Idin Sin et à propos duquel Monseigneur nous avait rendu un jugement. À mon arrivée, les gens au courant de cette affaire et qui formaient le service de Moudbissir n'étaient pas présents. Ils étaient allés avec Soumoudabi, donc jusqu'à présent, je n'ai pas pu régler cette affaire. Monseigneur m'a écrit au sujet de cet argent. J'ai eu peur de son message, j'ai pesé 6 cycles d'argent, possession de serviteurs qui habitent chez moi, il y a un reliquat de 4 cycles d'argent, qu'Idin Sin vienne et qu'il règle l'affaire avec les serviteurs de Moudbissir. Certes, c'est le roi qui avait écrit à Atracatum, mais l'argent, ici, n'était pas destiné au roi, il devait être versé à celui qui avait gagné le procès, donc un certain Idin Sin. De nombreux jugements s'achevaient, en revanche, avec la nécessité pour le coupable de verser une amende. En témoigne cette lettre de Utsi Anadagan, au sujet du jugement à propos de l'âne des Arabis, la Lusinum, une sorte d'amuseur, dont Monseigneur m'a écrit en ces termes, soit donne 5 cycles d'argent en fonction du jugement, soit vient chez moi et puis la suite est malheureusement cassée. Donc, on ne sait pas ce que ce Utsi Anadagan avait fait à l'âne des Arabis, mais il a été condamné suite à un jugement à payer une amende de 5 cycles. Malheureusement, une cassure nous empêche de savoir quelle serait l'alternative au versement de l'argent. Mais certains textes administratifs nous permettent de voir que les amendes perçues à la suite d'un jugement constituaient des ressources non négligeables pour le trésor royal. Par exemple, 7 mines de tiers d'argent, représentant 1 mine de tiers et 4 cycles d'or, selon la proportion de 4,5 cycles d'argent pour 1 cycle d'or, selon les poids du roi, représentent le jugement de Soumouyassim, transmission au coffre du roi. Eh bien, il est assez vraisemblable qu'une lettre de Zimrilim à son intendant Moukanishoum concerne la même affaire. « Voilà que je viens de te faire porter la tablette concernant la libération de Soumouyassim. Reçois cette tablette et observe avec soin son contenu. Libère Soumouyassim. » On ne sait pas pourquoi cet individu avait été emprisonné, mais il est fort probable qu'il a été libéré en versant la somme considérable de plus de 7 mines d'argent. Et ce montant alla directement alimenter le coffre du roi. Dans un cas privilégié, nous savons même exactement quelle opération devait être financée par le paiement d'amende du haut roi. C'est ce que révèle une lettre du gouverneur de Terka, Kibridagan. Monseigneur m'a écrit à propos de 10 mines d'argent qu'ont payé les coupables. Cet argent doit me parvenir rapidement pour servir au travail du trône du dieu Dagan. Depuis le jour où Monseigneur est parti, tout l'argent qui était à payer, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des documents administratifs qui nous montrent comment cet argent fut utilisé pour acheter de l'or destiné à orner ce trône qui devait prendre place dans le temple de Dagan de Terka. Et donc, vous voyez que finalement, l'argent est resté dans le district, puisque ce sont des amendes payées par des gens qui habitaient le district de Terka, que Cribridagan devait envoyer au trésor royal, mais ensuite, on achetait de l'or, et le trône, finalement, devait, après avoir été plaqué or, retourner, aller dans le temple de Dagan de Terka. Existait-il des amendes tarifées ? Un fragment encore inédit a l'intérêt de documenter une expression nouvelle, din shurkim, mot à mot, jugement d'un vol. Je le cite. Il faut que l'on convoque Yaskurum pour que nous parlions, moi-même et Yaskurum. Si c'est moi le voleur, je veux bien donner l'amende qui frappe un voleur. Mais si c'est lui le voleur, faites-lui payer l'amende qui frappe un voleur. Voilà ce que j'ai dit devant le serviteur de Monseigneur, Haria, Sinmagir et les juges. Donc le passage est intéressant parce qu'il donne à penser qu'il existait des sortes de tarifs, mais il faut faire attention que les tarifs qu'on trouve dans le code d'Hammurabi, par exemple, correspondent non pas à des amendes, mais à des dédommagements versés aux victimes. Donc c'est l'autre catégorie. Il nous faut maintenant commencer l'examen de la question de la peine capitale, et nous en reparlerons encore la semaine prochaine. À plusieurs reprises apparaît l'expression « din napishtim », mot à mot, un jugement de vie. Le mot « napishtum » désigne la gorge, le souffle, et par là même, le souffle vital, la vie. La lettre ARM 5.12, écrite par le roi de Carchemish à Yasmaradou, aurait sûrement été intéressante, puisqu'elle commence par « au sujet d'un din napishtim », mais malheureusement, toute la suite a disparu. Heureusement, un texte récemment publié nous permet de mieux cerner ce concept. Il s'agit d'une lettre d'Idinannou à propos d'une affaire transmise au roi. Le porteur de ma présente tablette appartient à mon district. Il est membre du clan Yumchamoum. Il est venu à moi et m'a dit « Mon frère a été volé dans ta région et a été vendu. » Donc ici, il faut comprendre que on l'a fait prisonnier, en quelque sorte, et vendu comme esclave. « Fais une enquête. » J'ai envoyé un message, on l'a recherché, et on s'est emparé du voleur de son frère dans la ville de Zalpar. On me l'a conduit, je l'ai alors interrogé en ces termes, « Pourquoi as-tu vendu l'homme ?» Il a dit, « Je l'ai vendu, fais ce qui te paraîtra bon. » J'ai dit, « Ce qui me paraîtra bon ? Non, tu iras chez le roi. » Je lui ai mis des menottes et les livré à son adversaire, disant, « Allons, mène-le chez le roi. » Mais son frère s'est levé, disant, « Que mon frère n'aille pas chez le roi, j'accepte de donner de l'argent. » J'ai dit, « De l'argent ? Être reçu alors qu'il s'agit d'un jugement capital ? De l'argent ?» Je l'ai ligoté et je l'ai remis à son adversaire. Maintenant, l'individu vient de s'enfuir. J'ai envoyé un message, on a réuni sa famille et j'en ai fait des garants. Alors, j'ai remis son frère à son adversaire et je viens de les expédier chez Monseigneur. Que Monseigneur fasse ce qui lui paraîtra bon. Si l'on ne fait pas peur à l'individu, les criminels seront nombreux dans la région. » Donc, une notation finale qui est intéressante, puisqu'elle montre une dimension politique de la justice dès cette époque. Le verdict dans ce procès doit être, comme on dit, exemplaire, c'est-à-dire avoir un effet dissuasif. Mais je voudrais surtout analyser le concept de din napishtim qui est ici mis en avant. Il ne s'agit pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire sur le parallèle de Din Shurkim, de ce que nous appellerions un crime de sang. Aucun meurtre n'a été commis. Mais il s'agit d'une affaire dans laquelle la vie du coupable est en jeu. Pour avoir vendu quelqu'un comme esclave à l'étranger, eh bien, on peut être soumis à la peine de mort. Et cette conclusion est confirmée par une lettre de Yahweh Ila. Il est question du roi de Niriya Bounou Mahadou. Yahweh Ila se vit demander « Si Bounou Mahadou était jugé pour un din napishtim et que sa vie était mise à son terme, autrement dit qu'il était exécuté, Resterais-tu en bon terme avec Zimrilim ? Donc il s'agit ici d'un jugement dans lequel l'accusé risque la peine de mort s'il est rendu coupable. Et on trouve un dernier exemple dans une lettre du roi de Choudhurum. Autre chose, au sujet des morts, que sont-ils ? Est-ce déjà peu de choses les nôtres ? Un mort était un ressortissant de la ville de Ratsum. Au cours du procès, les gens de Ratsum m'ont pris à partie. Alors moi, je leur ai répondu, ce procès est un procès capital. Je vais exposer mon cas devant Monseigneur. Et donc, mis en cause dans la mort d'un habitant de Ratsum, Hamoud Pael risquait la peine de mort et il demanda donc l'arbitrage du roi de Marie. Je vous rappelle enfin la lettre ARM 14-17+, que nous avons déjà commentée et qui permet de voir qu'on pouvait échapper à la peine de mort en versant une forte amende, puisque Zimrilim avait déclaré « Ça n'est pas 2 mines d'argent qu'il doit donner, en échange de sa mise à mort, qu'il pèse 5 mines d'argent comme rançon de sa vie, et alors tu pourras le libérer. » Et un peu plus bas, ces 5 mines d'argent sont qualifiées d'amende. Nous avons vu aujourd'hui comment la justice était rendue par les rois, leurs gouverneurs ou des personnes officiant avec le titre de juge, ainsi que les amendes ou les châtiments qu'ils infligeaient aux coupables. La semaine prochaine, nous verrons deux manières dont les rois pouvaient intervenir de façon extraordinaire en matière de justice, lorsqu'il s'agissait de vengeance, ou lorsqu'une situation économique dégradée les conduisait à des remises de dettes. Je vous remercie de votre attention.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.